Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Israël reconfine totalement. Le Premier ministre l'a annoncé hier soir, un confinement strict à partir de vendredi car le pays n'arrive pas à endiguer le Covid-19. Cela va jusqu'à provoquer une crise politique, nous dira notre correspondant.
Et pendant ce temps, d'autres pays se déconfinent un peu plus. C'est jour de rentrée pour la plupart des élèves. Il manque pourtant cruellement de professeurs, vous l'entendrez.
Vous entendrez cela avec un reportage en Italie où c'est le jour de rentrée aujourd'hui. À suivre aussi l'incompréhension des syndicats d'enseignants en France. À l'aube des évaluation en CP, CE1 et 6e, ils ne sont pas prêts, disent-ils.
Et puis dans cette édition, nous irons aussi en Russie où est attendu aujourd'hui le président Bélarusse. Il pourrait faire des concessions face à Vladimir Poutine.
Pourquoi les maires écologistes des grandes villes multiplient-ils les propositions iconoclastes en ce moment? Voici la question posée ce matin par Frédéric Say, son billet politique après ce journal. Revoilà donc le fameux « restez chez vous ». En Israël, toute la population va être reconfinée en fin de semaine. Cela représente 9 millions d'habitants. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou leur a annoncé cela hier soir, faisant d'Israël le premier grand pays à décider de se reconfiner totalement face à ce que certains appellent déjà la deuxième vague de Covid-19. Nous rejoignons notre correspondant dans la région, Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce confinement débutera donc vendredi, Frédéric, et il doit durer 3 semaines.
Oui, interdiction de sortir à plus de 500 mètres de la maison, télétravail, restaurant fermé sauf pour emporter, école fermée pour 1 mois. Les rassemblements seront limités à 10 personnes en intérieur et 20 personnes dehors et cela va bouleverser la vie des Israéliens juifs qui se préparaient à la nouvelle année le week-end prochain, à Kippour dans 2 semaines et à la fête des cabanes dans 3 semaines. Ces fêtes se feront souvent sans la famille ou sans les amis. Ironie de la situation, Clara, dans la religion juive, cette semaine est appelée celle des jours terribles.
Alors ce confinement, Frédéric, découle en fait de mauvais bilans sanitaires et le pouvoir semble dépassé.
Oui, c'est ça. Israël avait bien géré la première vague, 300 morts sur la période mi-mars, mi-juin. Mais sur la même durée, mi-juin, mi-septembre, il y a eu 819 décès et des dizaines de milliers de nouveaux cas, notamment chez les Arabes et les Juifs ultra-orthodoxes. Maintenant, Israël est le deuxième pays au monde en matière de nouvelles contaminations en proportion de sa population totale. Pourquoi ? Eh bien, le déconfinement a été trop rapide en avril dernier. Les températures ont été très élevées et les gens ont tombé le masque. Les Israéliens n'ont pas respecté toutes les mesures de précaution. Le système de santé sous-financé serait au bord de la saturation. Bibi Netanyahou reconnaît que le reconfinement pourrait durer plus de 3 semaines dans un pays où la hausse du chômage a été beaucoup plus importante qu'en France. La crise politique repart de plus belle. Les ministres s'accusent les uns les autres d'en être arrivés là. Un ministre ultra-orthodoxe a démissionné hier. Et hier soir, Benjamin Netanyahou s'est envolé pour Washington pour y signer demain les accords de paix avec Bahreïn et les Émirats. Des dizaines de manifestants ont tenté en vain de l'empêcher d'accéder à l'aéroport.
Le début d'une crise. Merci beaucoup Frédéric Mettezo en direct ce matin de Jérusalem pour France Culture. Il n'est pas totalement question de reconfinement en Angleterre, mais presque. Interdiction à partir d'aujourd'hui de se regrouper à plus de 6 personnes en extérieur comme en intérieur. La décision concerne bien l'Angleterre et pas les autres provinces du Royaume-Uni. Sachez que demain, ce seront toutes les rencontres entre amis ou familles qui seront interdites à Birmingham, la deuxième ville la plus peuplée du pays. Mesure qui pourrait durer jusqu'à Noël. Et puis j'évoquais tout à l'heure la deuxième vague de SARS-CoV-2. Eh bien, le chancelier autrichien a officiellement utilisé cette expression pour la première fois hier soir. Sébastien Kurz demande aux habitants du pays d'être responsables et de respecter les gestes barrières. Ce pays-là avait été le premier touché en Europe à la fin de l'hiver dernier. L'Italie, où la plupart des enfants font aujourd'hui leur rentrée scolaire après plus de 6 mois d'interruption. Une rentrée forcément attendue, mais pas tout à fait prête. Il manque des livres, des pupitres et surtout des enseignants, Bruce de Galzin.
Il devait y avoir 84 000 enseignants supplémentaires pour cette rentrée, promettait le gouvernement. Mais selon les syndicats, à peine un tiers a été recruté. Mario Galbani, professeur de mathématiques à Rome.
Plusieurs concours sont déjà terminés, donc il n'était pas possible de candidater. Et puis, beaucoup d'enseignants précaires n'acceptent pas de changer de région pendant 5 ans, alors qu'ils ont une famille.
Le gouvernement assure que les enseignants seront nommés dans les temps, mais le problème ne date pas d'hier. Les candidats manquent aussi, car les salaires notamment sont bas. Et l'âge moyen des enseignants est le plus élevé d'Europe, au point que certains professeurs ne devraient pas faire leur rentrée, car considérés comme personnes fragiles. Alena Rossini est professeure d'anglais à Turin.
La question des travailleurs fragiles est réelle. Nous travaillons, nous sommes des citoyens, des personnes. Mais dans un contexte plus sûr, avec des classes divisées, je pense que ce problème pourrait être, non pas résolu, mais limité.
Dans la région de Rome, un quart des écoles ne pourront pas rouvrir à temps plein, selon l'association des proviseurs.
Voilà qui nous amène en France, où deux semaines après la rentrée scolaire, les évaluations doivent commencer pour les élèves de CP, CE1 et 6e. C'est une idée du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, mise en place il y a 3 ans maintenant pour évaluer les acquis des enfants dans les classes charnières. Cette année, ces évaluations serviront de premier état des lieux pour d'éventuelles inégalités ou retards après le confinement. Voilà qui renforce les inquiétudes de certains enseignants vis-à-vis de ces évaluations. Comme s'en explique pour le premier degré, Guylaine David, la nouvelle secrétaire générale du SNUIPP.
On a toujours soutenu les enseignants qui n'ont pas fait passer les évaluations nationales face à la pression hiérarchique. Et puis on a toujours dit, vous prenez les exercices qui vous intéressent dans ces évaluations, mais vous n'êtes pas, voilà, vous faites à votre sauce, on va dire. On est toujours dans ce type de consignes comme les années précédentes. Comme on sait qu'on est dans une année un peu particulière cette année, on ne sait pas comment on va évaluer. Nous avons demandé l'annulation de ces évaluations qui ne sont pas adaptées, d'autant plus cette année parce que les enfants ont manqué un certain nombre de journées d'école. Ils ont des apprentissages en retard et ils ne peuvent pas être évalués de façon systématique. Les enseignants n'ont pas besoin de ça pour reprendre les apprentissages des élèves. Ils savent où vont en être les élèves, ils vont regarder leurs élèves, ils vont observer et ils vont mettre en place des solutions qui vont leur permettre d'évoluer et de rattraper tout ce retard.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi pour France Culture. Les préfets des Bouches-du-Rhône et de Gironde doivent présenter leur plan d'action pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La date butoir donnée par l'exécutif est aujourd'hui, car la situation est particulièrement préoccupante dans ces deux départements. En Gironde, par exemple, plus de 80 foyers épidémiques ont été recensés. C'est 1/10 du nombre total de clusters en France. À Bordeaux comme à Marseille, les élus demandent ce matin plus de tests, mais pas de reconfinement total. Par ailleurs, au niveau national, notons que 7000 nouveaux cas de contamination de Covid-19 ont été recensés hier. C'est 3500 de moins que la veille, mais les données sont toujours moins complètes le week-end. Sur les 7 derniers jours, près de 2500 patients ont été admis à l'hôpital à cause du nouveau coronavirus. Et face à cette crise sanitaire qui dure, comment les grands corps de métier s'adaptent-ils? Ce matin, nous faisons le point sur le quotidien des forces de l'ordre avec vous, Anne Fauquemberg.
Les forces de l'ordre se réorganisent sans moyens supplémentaires, sauf dans certaines villes où les maires ont le pouvoir de recruter des policiers municipaux. Alors pour faire respecter le port du masque, la police administrative, celle qui est chargée des troubles à l'ordre public, se redéploie, faisant appel, comme à Bordeaux, à ces brigades dites des débits de boissons dont la tâche est de vérifier que les épiceries sont en règle pour vendre de l'alcool. Dans les aéroports, la police aux frontières se concentre quant à elle sur le contrôle des attestations des tests PCR négatifs, obligatoire pour tout départ vers l'outre-mer et dans 32 pays du monde, alors qu'à la police judiciaire, la vigilance s'adapte à de nouveaux délits comme des filières de faux tests Covid, explique-t-on au ministère de l'Intérieur. La place Beauvau reconnaît qu'il est difficile d'assurer toutes les missions traditionnelles, ce que confirme Alexandre Langlois, le secrétaire général du syndicat de police Vigie.
Dans les objectifs, on a besoin qu'on montre qu'on est fort sur le Covid-19. L'exemple, on a eu la semaine dernière, des collègues qui habituellement, tel jour, font des contrôles routiers sur une zone. Cette semaine-là, on leur a dit vous ne faites pas le contrôle routier à tel endroit, vous patrouillez pour contrôler les masques. Voilà, par exemple.
Un exemple de policiers qui font respecter le port du masque et ce, après avoir été démunis de ces mêmes protections au début de la crise sanitaire, Anne.
Oui, c'est toujours difficile à digérer pour ce corps de métier qui a été en première ligne pour faire respecter le confinement. Et ce petit syndicat, Vigie, a été le seul chez les représentants policiers dont la plainte a été acceptée par la Cour de justice de la République. Une plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre. Alexandre Langlois, le secrétaire général, viendra témoigner demain devant la CJR qui a ouvert une information judiciaire cet été sur la gestion ministérielle du Covid-19. Instruction instruction en cours, donc sur la base de 9 plaintes qui visent Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn.
Merci Anne Fauquemberg pour France Culture. Grand médecin devenu politicien, Bernard Debré est mort hier à 75 ans. Cet urologue de renom était devenu député de droite et ministre du gouvernement Balladur. Bernard Debré a suivi la lignée familiale. Il était le fils de l'ancien Premier ministre Michel Debré et le frère de Jean-Louis Debré, également ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel. Ce week-end, nous avons aussi appris le décès de l'historien Dominique Khalifa, spécialiste des imaginaires sociaux. Il est mort le jour de ses 63 ans, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il y dirigeait le Centre d'histoire du 19e siècle. L'université annonce qu'un hommage lui sera rendu prochainement.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Des dizaines de milliers de manifestants ont encore défilé à Minsk hier.
Oui, pour le 5e dimanche d'affilée et pour la 5e fois, des arrestations s'en sont suivies. Au moins 400 hier dans la capitale de la Biélorussie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko refuse toujours le dialogue avec les opposants. Il préfère aujourd'hui s'envoler pour Moscou, où il sera reçu par Vladimir Poutine, quitte à faire quelques concessions, Claude Bruyot.
Alexandre Loukachenko va devoir céder aujourd'hui à Vladimir Poutine sur ce qu'il avait réussi jusque-là à refuser plus ou moins en termes de souveraineté. L'ampleur de la manifestation hier dans la capitale de la Biélorussie fait de Loukachenko plus que jamais un leader affaibli par 5 semaines de démonstrations pourtant pacifiques, réprimées comme hier encore avec dureté. Dans de telles conditions, le Kremlin ne va pas rater une telle occasion de monnayer son soutien au président biélorusse, surtout soucieux de rester au pouvoir. La feuille de route risque d'être à sens unique. Alexandre Loukachenko essaiera bien encore de mettre en avant des tarifs préférentiels sur les importations de gaz et de pétrole. L'essentiel est ailleurs. L'intégration de la Biélorussie risque de connaître un coup d'accélérateur vers l'unification économique, avec une accentuation sur le plan douanier et fiscal, avant que ne se posent à nouveau les questions de défense, telles que la création d'une base russe en Biélorussie. Avec une interrogation toutefois, jusqu'où les habitants de Minsk et des grandes villes biélorusses, qui veulent majoritairement rester maîtres de leur destin, sont-ils prêts à accepter cette intégration stratégique planifié par le Kremlin.
C'était notre correspondant en Russie, Claude Bruyot, pour France Culture. Autre opposant au Kremlin, les alliés d'Alexeï Navalny sur le terrain russe, cette fois. Hier étaient organisées des élections régionales et en l'absence de Navalny, toujours soigné en Allemagne après un empoisonnement présumé, en son absence donc, l'opposition revendique des victoires symboliques dans 2 villes sibériennes, le tout sur fond de fraude électorale. En Algérie, c'est via des procès par dizaines que le pouvoir veut faire taire le Hirak. Après le journaliste Khaled Drareni, qui attend d'ici demain son verdict, aujourd'hui c'est Karim Tabou, l'une des figures du mouvement anti-régime, qui est jugé en appel pour atteinte au moral de l'armée. Une nouvelle preuve de la répression qui s'abat sur les voix discordantes en Algérie, même sous le nouveau régime. La presse est la première visée, Nathanaël Charbonnier.
C'est un signe qui ne trompe pas. Rares sont les journalistes algériens qui acceptent de parler. Et quand ils le font, comme Akram, journaliste indépendant, c'est avec beaucoup de prudence.
L'autocensure est nécessaire si on ne veut pas avoir de démêlés avec la justice.
Conséquence pour parler de l'Algérie, certains fuient le pays. C'est depuis les États-Unis que le journaliste Abdallah Benadouda peut aborder les sujets qu'il est normalement interdit d'évoquer.
Il y a des sujets tabous, bien sûr. On ne peut pas parler du rôle de l'armée dans la gestion du pays.
Et ce qui concerne les journalistes concerne aussi Monsieur Tout-le-Monde. Mohamed Benchikou a connu la prison il y a quelques années en Algérie et il observe comment le pouvoir surveille tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Vous mettez un post sur Facebook, vous allez en prison. C'est plus nécessairement les journalistes qui font l'information, c'est les lecteurs.
Se pose alors la question de savoir pourquoi cette répression arrive maintenant. C'est simple, explique Kader Abdelrahim, auteur de Géopolitique de l'Algérie. Le nouveau président veut asseoir son pouvoir.
Le premier temps, c'était d'éliminer les hommes qui étaient fidèles à l'ancien régime. Et maintenant, il s'agit de marquer très nettement son territoire.
Enfin contacté pour évoquer le sujet de la liberté d'expression, l'ambassade d'Algérie à Paris n'a pas répondu à notre demande de rencontre.
Nathanaël Charbonnier. Peut-être un apaisement des tensions. En tout cas, le navire turc en mer Méditerranée Iranais est rentré au port hier. Il était au cœur de divergences entre la Turquie et la Grèce, car il se trouvait dans une zone potentiellement riche en gaz naturel, une zone que se disputent Ankara et Athènes. Notez enfin la visite attendue aujourd'hui de Donald Trump en Californie. Le président américain, accusé de ne rien faire ou presque contre le réchauffement climatique, ira au chevet des habitants sinistrés. Depuis cet été, les incendies sur la côte ouest prennent une dimension catastrophique, brûlant plus de 3 milliards d'hectares. En France métropolitaine, c'est la chaleur qui nous gagne. Sous un grand soleil ce lundi, il fait 27 degrés ce matin à Bayonne, 25 à Nice, 22 à Lyon et Bordeaux, 17 degrés à Strasbourg, Paris et Rennes, 16 degrés ce matin à Lille et gare aux fortes chaleurs cet après-midi, avec 30 à 37 degrés en général, soit 10 degrés au-dessus des normales de saison.